C'est bien de voir que vous avez pris le temps pour considérer le message de la Bible. Vous êtes peut-être prudent en ce qui concerne la religion. Allez à l'église, accomplir le rituel, suivre les traditions. Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. La Bible enseigne que Dieu vit dans le cœur des hommes et femmes qui écoutent ses paroles. Les seules cérémonies que vous devions suivre sont celles que la Bible elle-même explique clairement. Et il y en a très peu dans la Bible. Être baptisé par l'immersion dans l'eau et rompre le pain chaque semaine en mémoire de Jésus, voilà le dieu principal. Vous n'êtes peut-être qu'une personne ordinaire et vous voulez que Dieu soit dans votre vie, mais vous ne voulez pas aller plus loin. Ceci est probablement le cas de beaucoup parmi nous. Nous lirions un de plus en religieux, nous assisterions à une causerie biblique, nous participerions à une discussion sur la Bible. C'est merveilleux que nous croyons que Dieu existe car cela c'est chose certaine. Mais il y a tant d'autres choses à découvrir. En étudiant sa parole, la Bible, nous pouvons apprendre à les connaître et recevoir une part dans son plan éternel. Ces livres sont écrits par l'Esprit de Dieu qui pousse les hommes à écrire. Ce ne sont pas les simples paroles des hommes, comme tous les autres livres. Voilà pourquoi c'est un livre qui vaut d'être étudié. Peut-être, au contraire, vous croyez tout savoir. Vous avez regardé la Bible et vous êtes arrivé à tout comprendre. Mais si vous êtes très honnête, vous avouerez qu'il y a quelque chose qui manque. Il reste un petit doute, une crainte pour l'avenir, un manque de certitude quant à notre destin. Ces doutes qui suivent la plupart des hommes et femmes comme un chien noir jusqu'à la tombe. À vous, je dis, essayez encore une fois. Peut-être que les interprétations humaines se sont mêlées dans votre considération de la Bible. Retournez au texte de la Bible elle-même. Peut-être que pour vous, le christianisme n'est qu'une autre aventure intellectuelle, un autre passe-temps pour vous distraire un peu, une autre passion, une autre escale sur la route qui mène à la tombe quand même. La vie est trop courte pour avoir ce genre d'attitude cynique. Un jour, vous vous poserez dans votre tombe. Un jour, la finalité terrible de la mort descendrait sur vous. Écoutez ce que la Bible a à dire maintenant. Je vous prie, pour votre bien, prenez quelques minutes de votre vie pour considérer ce qu'elle dit. Abordons alors la question que nous posons ce soir. Qu'est-ce que l'Évangile? S'il vous plaît, ouvrez votre Nouveau Testament à Matthieu 1:1. C'est ici que Matthieu commence son explication de l'Évangile. Nous lisons. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce n'est pas le genre de choses à laquelle nous nous attendrions. Matthieu dit que Jésus est le descendant de David et d'Abraham. Voilà le commencement de l'Évangile pour Matthieu. Paul le voyait de la même manière. Voyez à Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait le Christ païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Le mot bonne nouvelle ici ne sont rien d'autre que le terme évangile dans les textes originaux. Alors l'évangile est ce qui fut promis à Abraham. Voilà ce que dit Paul. Si nous pouvons comprendre ce que Dieu promit à Abraham, nous pouvons comprendre ce que c'est que l'Église. Allons donc à l'Ancien Testament et voyons ce que Dieu dit à Abraham. Commençons à Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse 17, verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit donc à Abraham que lui, ses descendants, vivraient éternellement sur cette terre. La vie éternelle est donc une idée que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Prenez note de ceci, parce que le message essentiel de la Bible est le même du début jusqu'à la fin. Comment cela se peut-il? Tournons à Genèse 22, chapitre 22, le verset 17 à 18. « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Abraham aurait un fils qui serait une source de bénédiction pour le monde entier. Pour comprendre la Bible, nous devons voir comment elle se cite-t-elle même, nous donne sa propre interprétation. Or, le passage que nous venons de lire est cité dans le Nouveau Testament. À Actes chapitre 3, versets 26 à 27, regardons ces versets pour trouver l'interprétation. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses équités. Qui donc est cette descendance d'Abraham? C'est Jésus. Et quelle est cette bénédiction qu'il fournirait aux hommes et femmes du monde entier? Celle du pardon des péchés et du salut. Poursuivons cette idée. Regardons Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alors la descendance d'Abraham fit un seul homme, au singulier, Jésus. Mais comment est-ce que cet homme unique pourrait devenir si nombreux, aussi nombreux que les étoiles du ciel? Lisons Galates chapitre 3, les versets 27 et 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes le descendant d'Abraham, héritier selon la promesse. Seuls ceux qui ont été baptisés en Christ ont une part de ces promesses, les promesses de la vie éternelle ici sur terre. Voilà pourquoi nous devons être baptisés si nous voulons être sauvés. Paul dit que son espérance était l'espérance d'Israël. Acte 28, verset 20. Lorsqu'il s'est trouvé face à la mort, cela a été son espérance, l'espérance d'Israël. Qu'est-ce que c'est que le baptême alors? Ce n'est pas l'aspersion. Le Nouveau Testament fut écrit en grec et le mot traduit en français comme baptême veut dire réellement immersion. On utilisait ces mots en parlant d'un navire qui coulait, qui était submergé, ou encore d'une pièce de tissu contenant une autre couleur en la plongeant dans la teinture. Regardons Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 16. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean les laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici le ciel s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus descendit dans l'eau et sortit de l'eau. Il fut baptisé comme adulte et non pas comme bébé, par immersion et non par aspersion. C'est pourquoi cela s'est fait dans une rivière. Et si lui, il fut baptisé, nous devons le faire, nous aussi. Le fait d'être submergé et de sortir de l'eau est un symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. En étant baptisés, nous montrons que nous avons décidé de faire notre mort et sa résurrection. C'est pourquoi il faut que cela soit parmi l'immersion et non pas aspersion. Voyez Romains chapitre 6, les versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà pourquoi nous vous exhortons à être baptisés. Prenez comme but dans la vie d'accepter Jésus-Christ. En étant baptisés en Christ, Jésus, nous devons une partie de lui et de ses faits, les promesses s'appliquent à nous. Lorsqu'il reviendra sur terre, nous serons ressuscités, jugés et ensuite, si nous sommes restés fidèles à sa parole, nous recevons la vie éternelle que lui, il a maintenant. Nous vivrons alors éternellement dans le royaume de Dieu ici sur terre. Quand on croit à ceci, la vie a un sens nouveau. Quels que soient nos problèmes matériels, nous nous rendrons compte qu'ils sont temporaires et que lorsque Christ reviendra, il nous donnera une vie nouvelle et éternelle. Voilà pourquoi dans la Bible et en Christ, il y a une espérance véritable. Notre espérance est si grande que nos problèmes actuels se semblent pas tellement grands. Mais comment cela peut-il que cet homme, Jésus, peut nous sauver? C'était notre représentant et c'est pour cela que nous devons être baptisés à sa mort et à sa résurrection, parce qu'il était exactement comme nous. Regardez Hébreux chapitre 2, les versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y participait, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Remarquez en passant que le diable n'est ni un animal, ni un dragon. Le terme est utilisé ici comme une personnification du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, le verset 23. Mais ici, nous lisons que le diable détient le pouvoir de la mort. Nous devons lutter contre notre propre nature et non pas contre un être invisible extérieur. Remarquez dans le verset 14 comment on insiste sur l'humanité de Jésus. Lui aussi, d'une manière semblable, y a participé à notre nature, notre sang et chair. Et pourtant, la plupart des groupes chrétiens enseignent qu'il y a trois dieux dans une trinité et que l'un d'eux était Jésus. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Et selon le livre d'Hébreux, il est très important que notre compréhension de Jésus soit correcte. Il avait exactement la même nature que nous. Les textes le soulignent quatre fois. Il fut tenté comme nous. Et comment est-ce que nous sommes tentés? Regardons Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise attire et les séduit. Puis les convoitises, lorsqu'elle a conçu, affronte le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Ceci veut dire que Jésus avait notre nature humaine. Dieu ne peut pas être tenté, selon Jacques, mais Jésus fit tenter. Hébreux le dit. Alors Jésus n'est pas Dieu lui-même, c'était un homme, le Fils de Dieu par sa naissance, les descendants de David et d'Abraham par Marie. De même, Dieu ne peut pas naître, mais Jésus est né. Dieu ne peut pas mourir, mais Jésus est mort. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais les gens ont vu émaner Jésus. Jésus n'a pas existé avant sa naissance non plus. C'était le Fils de Dieu par Marie. Regardez Luc, chapitre 1, verset 31 à 35. Je lis. « Voici, tu deviendras sainte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. » Remarquez tous ces verbes au futur, « Il sera le Fils de Dieu. » Marie deviendra sainte. Voilà où Jésus a commencé, bien qu'il y dit, « Le Logos de Jésus ait existé avec Dieu depuis le commencement. » Remarquez que Marie était une femme ordinaire. Jésus fit le descendant d'Abraham et de David. Ceci n'était pas possible que si sa mère fit leur descendante. Si Jésus était Dieu, alors Marie serait la mère de Dieu et elle ne serait pas une femme ordinaire. Si comme la Bible l'enseigne, Jésus fit le fils de Dieu, est également le fils de l'homme, les descendants d'Abraham et de David par Marie, c'est évident que Marie fit une femme ordinaire. Alors c'est tout ou rien, un système de croyances véritables ou un système de croyances fausses. Il est important de croire la vérité parce que la doctrine affecte notre manière de vivre en regardant Hébreux 4, les versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de partir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Puisque Jésus partageait notre nature, nous pouvons prier par lui à Dieu avec confiance. Nous n'avons pas besoin d'un prêtre humain, d'un édifice spécial ou d'un pasteur pour que nos prières soient acceptées. Résumons les idées principales que nous avons discutées. Il n'y a qu'un seul Dieu, non pas une trinité. Jésus est le Fils de Dieu, non pas Dieu lui-même. Il n'a pas existé avant sa naissance. Il a subi toutes nos tentations et nos expériences humaines, mais il n'a jamais commis le péché. Il a donné sa vie pour nous par une mort atroce, mais ensuite parce qu'il n'avait jamais de péché, Dieu le ressuscita d'entre les morts. Par le baptême en Christ, c'est-à-dire l'immersion dans l'eau d'un adulte, nous partageons sa mort et sa résurrection. Lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons ressuscités et jugés et nous recevrons la vie éternelle dans son royaume, qui sera établi sur terre. Ce royaume ressemblera au monde de l'époque du jardin d'Éden. Lorsque Dieu venait de créer l'homme, il sera même meilleur. Tous les problèmes qui affligent le monde actuellement, la guerre, la famine, la tristesse, la mort même, tous ces problèmes disparaîtront à jamais. Après la mort, nous sommes sans connaissance, l'enfer. C'est tout simplement la tombe. L'âme n'est pas immortelle, nous sommes faits de poussière et nous retenons à la poussière l'esprit. C'est la puissance de vie à l'intérieur de nous que Dieu reprend quand nous mourons. Nous ne continuons pas d'exister sous une forme consciente après la mort. Satan est un symbole pour le désir humain méchant à l'intérieur de nous et contre lequel nous devons lutter. Ce n'est pas le nom d'un dragon ou d'un monstre qui a une existence réelle. Dieu est puissant à 100%. Il ne partage pas son pouvoir avec Satan. Tous nos problèmes proviennent de Dieu, non de Satan. Ils ont donc un but positif spirituel. 8. En lisant la Bible, pour nous-mêmes, nous pouvons trouver la vraie voie vers Dieu. Je vous exhorte donc d'étudier ces choses et de ne pas vous reposer jusqu'à ce que vous ayez atteint une connaissance du vrai évangile. J'espère que vous étudierez notre cours biblique gratuit et que vous prendrez comme but d'être baptisé un jour par immersion dans l'eau. Vous aurez alors sûrement l'espérance de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas imaginer la vie éternelle, c'est vrai. Je ne peux que suggérer que nous imaginons un très long règne qui n'a pas de fin et que nous voyons s'étendre au loin et que dans notre vie présente, nous nous trouvons seulement à quelques millimètres de son commencement. Ceci est réellement notre espérance. Si nous sommes baptisés en Jésus et que nous vivons en lui, je vous supplie de prendre tout ceci au sérieux et de ne pas les traiter seulement comme la religion, comme quelque chose d'ordinaire.